Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui un auteur très connu, très prolixe, qui est un de nos auteurs chouchous depuis les débuts d'Apinaise. Bienvenue Stéphane, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Et Stéphane est venu échanger avec nous, enfin surtout échanger avec vous d'ailleurs, sur le thème de se retrouver. Alors Stéphane, ce thème-là, se retrouver, qu'est-ce qu'il évoque pour toi?
Pour moi, il évoque à la limite le sens quasiment ultime de l'existence. Ce que je mets en évidence dans mon dernier livre, La mort n'existe pas, c'est la façon dont notre cerveau, depuis les premières secondes de sa conception et de sa mise en activité, fabrique un être, fabrique un individu, fabrique une personnalité à partir de ce qu'il perçoit, mais aussi à partir d'une mémoire qui se construit. Et arrivé à l'âge adulte, cette personnalité, elle a acquis une forme d'autonomie totale, mais qui, si ça rend notre individu extrêmement adapté à ce monde de matière et ce monde temporel nous a aussi complètement coupé d'une dimension fondamentale qui est cette espèce de continuum de conscience, de souffle de conscience dont parlent les bouddhistes, qui est peut-être la part immortelle qui nous constitue. Et donc se retrouver, c'est peut-être se mettre en condition au fil de notre vie pour prendre conscience déjà de la paire de lunettes que l'on a en permanence, prendre conscience que la personnalité que l'on pense être est juste un masque, est juste un véhicule qui nous permet de traverser cette existence, qu'elle ne nous définit pas fondamentalement, et qui a au cœur de nous quelque chose qui a envie de s'exprimer, qui c'est pas juste une question philosophique, c'est pas pour simplement la beauté de la chose, c'est que cette chose qui est au fond de nous, qui a envie de s'exprimer, cette âme, cette dimension fondamentale, elle est notre guide, elle est notre essence. Elle a déjà une connaissance du chemin que l'on est en train de traverser. Elle a une connaissance, des réponses qui pourraient nous aider. Elle a une vision juste de ce que l'on traverse, de ce que l'on vit. Et si parfois on est confronté à des choses qui nous semblent totalement injustes, extrêmement difficiles, compliquées, des épreuves, elle sait pourquoi. Donc au fond de nous, il y a quelqu'un qui sait pourquoi notre vie est parfois si confuse, si compliquée, si en apparence injuste. Donc, se retrouver, ça passe par toutes ces techniques, tous ces moyens, tous ces outils qui sont donnés à notre disposition, qui nous permettent de prendre du recul par rapport à notre activité permanente. Donc, ça va aussi bien des psychothérapies qui nous permettent de relativiser peut-être important un peu l'importance que l'on donne à ce personnage dont les problèmes nous envahissent et nous accaparent complètement. La méditation est un autre outil formidable parce que ça, on a vu notamment en neurosciences que la méditation permet vraiment de mettre pas en sommeil, mais en baisse d'activité, le réseau cérébral qui sous-tend notre ego et cette personnalité. Toutes les techniques qui induisent des états de conscience modifiés, que ce soit la danse, le chant, les
Oui, le
techniques
corporel est très
psychocorporelles,
important. Le
jusqu'au
corporel est très,
chamanisme.
très important, oui.
Oui, parce que le corporel permet de court-circuiter un petit peu la tour de contrôle qui contrôle et qui donne vie en permanence à ce personnage.
Et
Donc,
ce corporel, on s'en est quand même très largement coupé dans nos sociétés occidentales.
oui, parce qu'on compte sur notre cerveau, sur notre contrôle et notre raisonnement pour prendre toutes les décisions de notre vie. Sauf que notre cerveau, il ne peut raisonner qu'à partir de ce qu'il a déjà appris. Donc, si un problème se pose dans la façon dont il entrevoit la réalité, la solution, elle est à l'extérieur de ses compétences parce que la solution, elle ne viendra pas de son expérience acquise. Souvent, les grands problèmes ou les grandes questions qui se posent dans notre vie sont là pour justement nous faire sortir un peu des rails ou nous amener au constat qu'on est justement dans une voie un peu sans issue ou une impasse. Donc, ce n'est pas en réfléchissant qu'on va trouver la solution, parce que réfléchir ne se fait qu'à partir de l'expérience acquise. Donc, pour trouver une solution, pour sortir d'une impasse, il faut forcément trouver un moyen de sortir de ses habitudes de réflexion, de ses habitudes mentales. Et le corps peut y aider parce que le corps, lui, il exprime des élans, il exprime une énergie, il exprime quelque chose qui ne va pas passer par le raisonnement. Mais comme tu l'as dit, c'est tellement dur d'écouter son corps parce qu'on n'est pas habitué à le faire. Alors
Et
ceux
pourtant,
qui...
il est un bon véhicule de la voix de cette âme-là.
Oui. Exactement, et jusqu'à un point qui me fait dire que pour j'ai le sentiment que même parfois les maladies vont être les messages désespérés d'un corps qu'on n'écoute pas depuis trop longtemps. Je l'ai expérimenté moi-même en étant atteint d'une maladie auto-immune qu'on m'avait diagnostiquée comme définitive devant m'accompagner toute mon existence et qui en fait a été d'une certaine manière, le message de mon corps pour me parler d'un traumatisme que j'avais vécu dans l'enfance. Je raconte tout ça dans Nos âmes oubliées, que j'ai publié il y a quelques années. Donc, je l'ai expérimenté moi-même. À force de ne pas comprendre ce que mon corps me disait, j'ai développé une maladie qui était une sorte de message désespéré. Et puis, en comprenant le message, à travers une thérapie un peu particulière, bah, tout d'un coup, le message n'avait plus lieu d'être. Et il a disparu. Et cette maladie dont on me prédisait qu'elle allait m'accompagner toute mon existence a totalement disparu de ma vie et de mon corps depuis 2 ans et demi. Donc, tu l'as dit, effectivement, il y a quelque chose en nous qui est là en permanence. Il y a quelque chose en nous qui veut nous aider, qui veut nous guider. Je pense qu'il y a une forme de bienveillance fondamentale dans la vie, malgré ce que l'on voit autour de nous, malgré ce que l'on peut imaginer sur cette planète. Il y a quand même quelque chose de bienveillant. Et cette bienveillance, en premier lieu, elle est là. Elle est au cœur de notre être. Un guide, un accompagnant. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher des guides très très loin dans un monde spirituel. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher nos morts ou je ne sais quoi à l'extérieur. Tout est là en fait, tout est là. Et se retrouver, c'est retrouver le chemin à cette intériorité qui porte en elle toutes les capacités de guérison, toutes les capacités de guidance, toutes les capacités d'apaisement. Donc tu vois, pour moi, se retrouver, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi moi au fil de ma vie. Et qui m'a permis de me rendre compte justement de l'existence de cette force incroyable.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout quelque chose d'ésotérique, ce n'est pas quelque chose de perché, c'est quelque chose de très très tangible. Et toi, tu es quelqu'un de rationnel, tu as une approche très scientifique et très rigoureuse dans tout ce que tu expérimentes. Donc quand tu dis ce genre de choses, tu n'es pas en train de fumer la moquette. Voilà, c'est très concret et c'est pas.
Oui, ce dont je te parle, là, c'est vraiment une espèce de synthèse que j'ai pu faire au fil de mes années d'enquête entre ce que nous disent les neurosciences sur le développement du cerveau et le développement cognitif de notre appareillage d'interaction avec le monde. C'est ce que nous disent la psychologie. Enfin, tu vois, le terme de persona, c'est un terme qui a été formulé par Jung. Mais la psychologie, au-delà de la psychologie jungienne, parle aussi du développement d'un individu qui n'est pas l'essence de lui-même. Il y a cette dimension d'inconscient qui fait débat entre les différentes écoles de psychologie ou de psychiatrie. Mais l'inconscient est une dimension colossale de ce qui nous constitue, dans lequel, justement, se débattent... des parties de nos personnalités qui participent à l'aveuglement et à la confusion qu'est la nôtre. Mais c'est aussi un message que l'on retrouve dans plein de traditions spirituelles. Certaines traditions, le bouddhisme ou l'hindouisme, le socle fondamental, c'est de dire que notre souffrance est constitutive de notre aveuglement et de notre confusion. Cette confusion, elle n'est pas consécutive d'une sorte de punition divine. Cette confusion, elle vient de la nature même de notre... humanité dans ce monde de matière, dans ce monde de temps, qui nous impose un support organique, un support cérébral, qui de par son fonctionnement va être producteur de confusion. Donc c'est voilà là où ce que je te partage avec toi, c'est effectivement c'est pas enfin à mon sens des idées farfelues, c'est vraiment une synthèse de ce que l'on peut rassembler. Quand on va dans le spirituel, dans les traditions spirituelles, dans le chamanisme, mais aussi dans les neurosciences, dans la psychologie, et c'est observable par tout un chacun au quotidien.
Et la démarche d'une psychothérapie analytique jungienne, c'est exactement la même que ce dont tu parles, c'est de mettre de la lumière sur des zones d'ombre, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière, c'est de faire monter à la conscience un certain nombre de choses en utilisant énormément les matériaux du rêve, et ces mêmes matériaux qu'on retrouve dans les états de conscience modifiés. Donc en fait, toutes ces approches-là, même si elles se racontent différemment, elles ont des cheminements qui sont extrêmement proches et elles vont toutes au même endroit qui est d'essayer de sortir de ce cadre limitant qui est aussi lié au langage qui enferme pour aller vers, vers un langage symbolique qui est à la fois, dont une partie est à la fois le nôtre personnel et une partie qui fait partie de l'inconscient collectif. Et voilà, et arriver à la fois à être nous-mêmes dans une présence non souffrante parce que connectée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
C'est vrai que tout ce qu'on ne connaît pas de soi-même ne disparaît pas parce qu'on ne le connaît pas. Tout ce qui se trouve dans notre inconscient, nos ombres, nos traumas, nos mémoires refoulées, elles sont là. Et on pourrait se dire, bon, elles sont là, elles sont inconscientes, on s'en fiche, on n'a pas besoin de s'en occuper.
Oui, mais elles essayent de se frayer un chemin.
Elles essaient de se frayer un chemin, elles nous rendent malades, elles nous font prendre des décisions parfois qui sont incohérentes ou qui sont stupéfiantes, elles nous auto-sabotent, elles participent de notre perte d'une forme d'autonomie. Elles participent en fait de la perte d'autonomie de notre âme et de notre dimension spirituelle. Parce que pour moi, cette dimension spirituelle, elle est essentielle, elle est là, elle est vraiment... Mais comme nous ne vivons pas dans un monde spirituel, cette dimension spirituelle est recouverte de toutes les dynamiques psychologiques, organiques, cérébrales qui prennent le dessus, en fait.
On ne vit pas dans un monde spirituel, mais le spirituel s'invite quand même de plus en plus, se réinvite de plus en plus dans notre monde à travers plein de petites choses, malgré tout.
Ah, parce que le spirituel, pour moi, c'est le fondement de la réalité. Oui. Notre monde est dans une dimension et une fréquence extrêmement dense. Nous sommes faits de matière, nous sommes des êtres organiques, des sacs d'os et de chair qui, de par la présence écrasante et la densité écrasante de cette matière, écrase la subtilité de cette dimension spirituelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Elle est là, elle est invisible, elle est inhibée. Pour ce qui est notamment de notre conscience, elle est inhibée par notre activité cérébrale. Donc, elle s'invite, évidemment, elle s'invite dans la trajectoire d'une vie, elle s'invite par ce qu'on va appeler des signes, des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas, des choses étonnantes, parce que ça transpire malgré tout. À nous d'y faire attention, et ça rejoint le thème de notre discussion, se retrouver, à nous de nous apercevoir que nous sommes constitués de différentes parties, et peut-être la partie la plus inaccessible est peut-être la partie la plus importante, cette dimension spirituelle. Et se retrouver, ça veut dire ça, ça veut dire arrêter d'être fasciné par le visage que l'on voit dans la glace le matin, arrêter d'être fasciné par notre histoire, par notre je, dont on imagine qu'il est la totalité de notre être, arrêter d'être hypnotisé par ce monde et commencer à prendre la mesure qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre aux commandes derrière et que ce quelqu'un d'autre ne se réduit pas à simplement un individu. Ce quelqu'un d'autre, c'est un être divin. Et cet être divin, c'est une partie de nous-mêmes. Tu sais, il y a une phrase des Quakers américains que j'aime beaucoup, qui invite chacun des croyants à essayer de voir la part de Dieu que chacun porte. Et moi, je suis vraiment habité par ça, mais pas habité parce que j'aurais fait une sorte de méditation transcendantale, mais je suis habité par ça parce que j'ai des années d'enquête autour de la conscience, auprès de scientifiques, de chercheurs, donc ce n'est pas une idée complètement saugrenue. Nous avons cette part du divin en nous. Nous sommes tous un éclat du divin. Et cet éclat du divin, il est là, il est disponible à chaque seconde de notre vie. Et pourtant, on continue à penser qu'on est non juste Stéphane, juste Nathalie, juste des êtres humains individuels, mortels, confus, empêtrés dans nos problématiques mentales. Non, nous sommes des bouts de Dieu, en fait, chacun des bouts de Dieu. Donc se retrouver, c'est peut-être ça de façon ultime, c'est comprendre qu'on est un petit morceau de Dieu, un petit fragment, un petit éclat, un reflet, et qu'on peut s'y connecter là, maintenant, à la seconde même. C'est pas compliqué.
Et du coup, quand on s'y connecte, ça efface les différences apparentes entre nous, les uns et les autres, puisqu'on est tous des petits bouts.
Alors oui, d'une manière ultime, c'est vrai que différentes traditions spirituelles parlent de ça, mais je pense que c'est très progressif. Parce que entre moi maintenant, Stéphane, coincé dans mon corps de Stéphane, et une espèce d'unité divine, il y a quand même pas mal d'étapes très différentes. Et moi, ce qui m'importe, c'est déjà de sentir, de pouvoir au quotidien, quand je suis confronté à la maladie, à une difficulté, à un questionnement, c'est déjà de réussir à trouver une forme de calme intérieur qui me permet de sentir vibrer cette part divine. Donc moi, très concrètement, ça passe par m'asseoir en méditation quotidiennement, le temps qui est nécessaire. Ça me permet chaque jour d'avoir quelques minutes, parfois quelques secondes, une expérience de ce divin. Et c'est profondément contaminant dans le reste de la journée, si tu arrives à faire ça. Mais ça passe par une forme de discipline. Et c'est vrai que dans notre monde occidental, on voudrait que se retrouver puisse se faire juste en un week-end. Tu vois, tu fais un week-end de développement personnel, tu vas voir un psy trois fois, et puis hop, tu vas... Non,
oui,
se retrouver, c'est un travail d'une vie. Retrouver, c'est un chemin qui prend ta vie, en fait, toute ta vie.
Oui.
Et c'est ça qui est beau.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on a lancé Happiness il y a 10 ans, on était, enfin moi j'étais très très loin d'imaginer tout le business développement personnel qui allait se mettre en place justement autour de cette promesse complètement fausse de il suffit de faire ci, il suffit de faire ça et youpi tralala. Non, c'est le chemin qui est beau et c'est pas voilà ce que tu dis, c'est le chemin d'une vie. C'est pas un séminaire, c'est pas un stage, c'est pas une formation X, etc. Non, c'est plein de choses tout le temps.
Exactement.
Oui, complètement. Et du coup, c'est aussi ça qu'on a envie qu'on a envie de partager avec vous, nos auteurs chouchous. C'est justement cette 10 ans après, de témoigner que c'est un chemin et qu'il n'y a pas de recette. Et qu'il n'y a pas de miracle et qu'il faut effectivement de la discipline, mais c'est de la discipline pour soi. On n'est pas du tout en train de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, on s'en fiche. C'est simplement pour soi, son propre enfant intérieur. Enfin, on peut l'appeler avec tous les noms qu'il faut. Et c'est vrai que, voilà, comme on se sent un petit peu responsable quand même avec les magazines de développement personnel d'avoir involontairement contribué. Au fait que un certain nombre d'entités physiques ou enfin voilà des sociétés, des personnes se sont engouffrées dans cet univers en se disant que alors beaucoup sont animés par de bons sentiments, mais ça suffit pas d'être animé par de bons sentiments. Ça suffit pas. Et donc du coup voilà, pour nous c'était aussi important de s'arrêter en disant bon. Voilà, c'est exactement ce que tu dis. C'est un chemin. Il n'y a pas de recette. Happiness n'est pas un magazine qui est là pour vous aider à trouver le bonheur. C'est un magazine d'inspiration et de partage. Et c'est tout. Mmh. Et c'est déjà bien suffisant parce que de toute façon, les réponses, il n'y a que vous qui les avez. Personne d'autre peut les avoir à votre place. Alors, on peut vous filer un coup de main pour faire le tuyau entre vous et vous, mais ça n'est qu'un coup de main, c'est une graine. Après, si vous jardinez pas votre jardin, se passera rien en fait. Ouais, tout à fait. Là, on enregistre cette interview pas du tout en 2024 quand les gens vont la regarder. Du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour l'année 2024 à toutes nos auditrices et nos auditeurs, un petit message de fin de...
Bah écoute, y a quelque chose qui risque de ne pas me démentir, c'est que le monde donne l'apparence d'un monde en souffrance, d'un monde dans lequel il y a beaucoup de colère qui s'exprime, beaucoup d'injustice, beaucoup de violence. Moi, je le connais ce monde de guerre, parce que j'ai été reporter de guerre pendant quelques années avant de m'intéresser à ces thématiques-là, donc je sais la réalité que peut revêtir cette planète de façon extrêmement brutale en certains endroits. Malgré tout, je pense que sous ça, sous cet aspect visible et effrayant de certaines parties du monde, il y a du beau, et que la colère, la violence, la haine que l'on... On a l'impression qu'il n'y a que ça qui nous entoure. C'est pas l'essence de la réalité, c'est pas l'essence du monde, c'est pas la nature de ce monde. La nature de ce monde, c'est de l'harmonie, c'est de la beauté. Et on la voit dans 1000 endroits sur cette terre aussi. Sauf que c'est pas ce qui nous est montré quotidiennement au journal télévisé ou dans les médias, sauf dans certains, comme Happiness par exemple. Donc au-delà de cette apparence terrifiante du monde, il y a quelque chose de bien. il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'harmonieux, et ce quelque chose, on peut le faire résonner en soi. Et si on peut essayer d'être peut-être moins, comment dire, moins en prise, c'est ce à quoi je vous invite peut-être cette année, à être moins en réaction avec la violence que l'on voit. Ça ne veut pas dire être indifférent. Tu sais, je pense que par rapport à ce monde, si on essaie d'envisager l'avenir soit en termes d'optimisme, soit en termes de pessimisme, on est dans les deux cas dans une forme de passivité, de distance. Oui. Le pessimiste va voir le monde, va voir que ce qui va mal dans le monde et ne va pas se connecter à ce qui pourrait être positif. Et l'optimiste, il va voir que ce qui va bien, il va être dans une forme de déni aussi de ce qui ne va pas bien. Donc moi, j'ai plus envie d'inviter chacune et chacun à entretenir une forme d'espérance intérieure dans la beauté du monde et dans sa capacité, si on y met chacun un peu d'une autre, à trouver des solutions, à apporter de l'apaisement. Et cela peut commencer par être fait en prenant soin de soi, en essayant que l'ombre ait déjà moins de brise sur soi pour faire baisser son, à notre petit niveau microscopique, son influence sur le monde.
Merci beaucoup Stéphane.
Merci Nathalie.
Et merci à toutes et à tous, et on vous souhaite un très bel anniversaire d'Happiness et une très belle année 2024.